Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Nous partons aujourd'hui pour un nouveau portrait, celui de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du golfe du Morbihan. Créée en 2008, c'est la plus grande réserve de ce type en France et la seule à être exclusivement en domaine public maritime. Cette réserve occupe les deux tiers du golfe du Morbihan et regroupe 84 espèces d'oiseaux différentes, dont la majorité sont des hivernants. Ce sont au total près de 80 000 oiseaux qui sont comptés chaque année, dont des espèces à fort enjeu de conservation, comme la bernache cravant, la barre jacques noire, la spatule blanche, la sarcelle d'hiver ou encore le bécasseau variable. Une des portes d'entrée de cette réserve, c'est l'étang de Toulverne, sur la commune de Baden, où ces différentes espèces d'oiseaux peuvent être plus facilement observées. Et notre guide du jour s'appelle Jérôme Cabelguen, conservateur de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du golfe du Morbihan. C'est un portrait signé Gaël Ledu de Radio Bretonnette, votre radio associative en breton et en français dans le Morbihan.
L'attirail que j'ai avec moi quand on va sur le terrain, c'est une paire de jumelles autour du cou et une longue vue sur l'épaule. Donc ça, c'est pour les missions de suivi. Et aussi, très régulièrement, quand on fait des missions de police, on peut être armé et avec un carnet de PV dans la poche.
Jérôme Cabelguen est conservateur de la réserve du golfe du Morbihan et en charge pour l'OFB, Office français de la biodiversité, de la co-animation Natura 2000 avec le parc naturel régional du golfe du Morbihan.
Ce métier de conservateur, c'est mettre en place des mesures qui sont prévues par un plan de gestion dans la réserve. Donc c'est écrire le plan de gestion et le mettre en place. C'est une réserve qui a été créée en 2008 avec vraiment comme objectif la préservation des oiseaux hivernants et de leurs habitats dans le golfe du Morbihan. J'ai toujours été passionné par les oiseaux, ça remonte à loin et c'est aussi une hérédité et une culture familiale. Et après mes études, j'ai passé le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'époque, établissement dans le public dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 15 ans avant qu'il fusionne pour créer l'Office français de la biodiversité. Donc j'ai occupé différents postes à différents endroits de France à l'ONCFS, où j'ai principalement fait des missions de police pendant 10 ans avant de prendre ce poste-là. Moi, je suis fonctionnaire et j'ai demandé une mutation sur ce poste-là. J'avais déjà des prédispositions, on va dire, pour le suivi des oiseaux, ce genre de choses, et un bagage important en termes de police de l'environnement.
Malgré le vent fort et froid qui nous accompagnait et qui s'est aussi invité au micro, nous avons pu suivre Jérôme Cabelguen sur un site qu'il connaît maintenant très bien.
On est sur l'étang de Toulverne, qui est à Baden, qui est une propriété privée. On est à l'intérieur du site Natura 2000 du golfe du Morbihan. Et c'est un marais sur lequel on a travaillé avec le propriétaire, avec la collaboration de la commune de Baden, les services de l'État et l'association Bretagne Vivante, pour mener des opérations de restauration des habitats, donc en arrachant une espèce invasive qui s'appelle le baccharis. C'est un arbuste qui vient d'Amérique du Nord et qui envahit des milieux comme celui-là, qui sont des milieux saumâtres, en fait, où l'eau salée va rencontrer l'eau douce. Et par la suite, on a travaillé aussi avec les services de l'État pour mettre en place une mesure de protection sur ce site-là, pour limiter l'accès et favoriser la tranquillité des oiseaux, notamment en hiver. Et depuis, c'est devenu un site extrêmement intéressant pour l'hivernage des oiseaux sur le golfe. Il s'est aussi posé la question que les gens qui se promènent sur le site avaient peu de vision du marais. et de l'étang. Et du coup, le propriétaire a proposé des terrains à la mairie et la mairie a financé des observatoires. Donc il y en a deux sur le site, l'autre est en face de nous. Et du coup, les ornithologues, les promeneurs peuvent venir dans les observatoires et observer les oiseaux notamment sans les déranger. Donc avec une proximité de certaines espèces qui est très intéressante.
Oui, parce que là, on est dans une sorte de... Allez, petite terrasse, cabane ouverte. On est un petit peu aussi caché des oiseaux par des arbres. Il y a l'idée que ce soit le plus discret possible.
Oui, l'idée, c'est d'être, de voir sans être vu. C'est complètement ça, un observatoire. Donc, il a essayé d'être intégré dans le paysage. Il y a des croquis paysagers qui ont été faits. Un avis de l'architecte des bâtiments de France, parce qu'on est sur un site inscrit. Et au final, le choix qui a été retenu, c'est de faire quelque chose de très minimaliste et le mieux intégré dans le paysage. Donc on est dans un petit boisement, une petite roselière devant nous, et puis derrière, on a l'étang avec tous les oiseaux.
Alors quand on est rentré sur le site pour se diriger vers l'observatoire, on a pu voir un panneau, on retrouvait les différents logos, notamment Natura 2000, je crois, et en dessous, il y avait plusieurs pictogrammes d'interdiction. Sur le site, on ne peut pas faire n'importe quoi.
Alors sur le site, on est maintenant dans un arrêté de protection de biotope, qui est une mesure de protection qui est mise en place au niveau départemental par un arrêté du préfet et qui réglemente un certain nombre d'activités et les choses les plus logiques hein, pour permettre l'hivernage tranquille des oiseaux. On interdit le survol en drone, on interdit de faire de la planche à voile sur le site, on interdit aussi aux chiens de fréquenter le site et la chasse est aussi interdite sur le territoire.
On est maintenant installé avec la longue vue. Qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui sur le site, il y a pas mal d'oiseaux, notamment un groupe de spatules qui est une espèce migratrice. La majorité de la population va plutôt nicher autour des Pays-Bas et de l'Allemagne et passer soit pendant la migration dans le golfe du Morbihan, soit rester tout l'hiver en hivernage. Et ça, on peut le savoir, notamment grâce à des programmes de bagages. Et là, devant nous, il y a quelques spatules qui sont baguées. Donc, grâce à la longue vue, on peut noter le code des bagues, qui sont des codes soit couleur, soit un code alphanumérique. On a un site internet sur lequel on peut rentrer par la suite ce code-là, et ça va nous donner toute l'histoire de l'individu, depuis quand il a été bagué, où il a été bagué, par qui, et à quel moment il a été revu dans sa vie.
Qui et quand et comment on pose ces bagues ?
Alors sur les spatules qu'on a devant nous, c'est des oiseaux qui sont bagués poussins. Les spatules, elles vont nicher dans des colonies au sol. Et avant que les jeunes s'envolent, les bagueurs ou les gens qui font des recherches scientifiques vont aller sur le terrain, capturer les individus, leur poser des bagues, parfois leur poser un GPS aussi, et ensuite les relâcher. Donc nous, on organise aussi des opérations de bagages pour d'autres types d'oiseaux, d'autres espèces, par exemple des limicoles, les oiseaux de la famille des échassiers, et puis aussi des canards. Donc là, on va les attraper plutôt de nuit avec des filets ou des matoles, des nasses, tout un tas de dispositifs. Quand on attrape les oiseaux, on fait ce qu'on appelle de la biométrie. On va les mesurer, prendre la taille des pattes, du bec, des ailes, les peser, voir leur état physiologique. Et ensuite, on leur pose au minimum une bague. Et parfois, on peut aussi poser des bagues couleurs qui permettent de repérer les oiseaux de loin grâce à des longues vues et aussi des GPS.
Est-ce qu'il y a certaines espèces qui sont très présentes sur ce territoire, mais qui ne sont pas baguées ou qui ne nécessitent pas forcément d'observation particulière ?
Sur l'étang, là, il y a beaucoup de canards, notamment. Alors, les canards peuvent être bagués, mais la particularité des canards, c'est qu'ils sont souvent sur l'eau. Donc, la simple bague à la patte ne permet pas de voir s'il est bagué ou pas bagué. Donc, souvent, chez les canards, pour retrouver la bague, il faut recapturer l'individu. Ou c'est aussi des oiseaux qui sont tués à la chasse et on a des retours de bagues via la chasse. Mais la grosse majorité des oiseaux qu'on va trouver ne sont pas bagués, n'ont jamais été capturés. Alors, il y a des espèces qui sont très dures à trouver parce qu'elles sont rares, parce qu'elles sont cryptiques, c'est-à-dire qu'elles vont bien s'intégrer dans le milieu, on aura du mal à les voir, elles sont bien camouflées. Là, on va dire que globalement, on est sur des espèces qui sont relativement communes, enfin qui sont en tout cas abondantes sur le site. Il peut y avoir en passage sur cet étang-là des espèces un peu plus rares, comme des rapaces par exemple. Il y a le balbuzard pêcheur, qui est une espèce qu'on va trouver en migration ou en début d'hivernage sur le site et qui va nicher un peu plus au nord de l'Europe. Il y a aussi le faucon pèlerin, qui est aussi une autre espèce de rapace qui va bien fréquenter le site en hiver pour s'alimenter notamment d'oiseaux.
Alors vous baguez, ensuite vous les retrouvez, vous comptez, vous répertoriez, vous identifiez. Mais concrètement, tout ce travail, tous ces chiffres, ça vous sert à quoi ensuite ?
Alors, ça nous sert à différentes choses. Ça nous sert à faire remonter des données au niveau national, voire international. On va travailler sur un site comme Toulverne, mais on va de manière un peu plus large, si on dézoome, on va aussi faire des comptages sur l'ensemble du golfe du Morbihan. Il se produit la même chose sur l'ensemble de la Bretagne, sur l'ensemble de la France. Et en fait, il y a ce qu'on appelle aussi le comptage wetland qui a lieu au mois de janvier, qui va regrouper tous les observateurs et tous les sites majeurs pour les oiseaux d'eau vont être comptés quasiment le même jour, ou en tout cas à la même période. Et ça nous donne une idée de la taille des populations au global. Donc ça permet de travailler sur des réglementations, notamment au niveau européen. Sur la chasse, par exemple, est-ce que telle espèce, on peut la chasser ? Enfin, est-ce qu'il y a suffisamment d'individus pour qu'on puisse chasser ces oiseaux-là ? Et ça nous donne des réponses aussi très locales. Quelles sont nos tendances ? Est-ce que les oiseaux dans le golfe, ils augmentent, ils diminuent ? Est-ce que les oiseaux sur cet étang-là, à Toulverne, ils augmentent ou ils diminuent ? Grâce au comptage, on peut avoir ces réponses-là.
On suit Jérôme Cabelguen en voiture pour faire le tour de l'étang de Toulverne. On se trouve en périphérie du golfe du Morbihan, sur la commune de Baden, entre Vannes et Auré, juste derrière les vasières du golfe. Cet étang a pour caractéristique d'être un milieu d'eau saumâtre. Rencontre de l'eau douce qui arrive du bassin versant et de l'eau salée qui provient du golfe via le système hydraulique de vannage de l'étang. Ces zones sont des milieux de transition extrêmement riches en matière de production. Par exemple, phytoplancton, zooplancton. En clair, l'étang, c'est le gîte et le couvert pour les oiseaux. Et justement, nous arrivons à la rencontre du maître de ces lieux.
Je m'appelle Hugues Dachon. Je suis le propriétaire de l'étang de Toulverne. Et c'est une maison de famille depuis 3 générations. Donc je l'ai connue toute mon enfance, c'est un endroit magique, particulièrement au niveau des oiseaux et de la nature. Et donc on a eu à cœur avec mon épouse de remettre en état et de relancer, redonner vie à la propriété. Il y a deux aspects, il y a l'aspect de la maison elle-même, donc ça c'est permis de construire, mairie, autorisation, etc. Et puis des gros travaux, parce que la maison était en très mauvais état, donc on a vraiment tout refait. Et puis il y avait l'aspect environnement, c'est-à-dire l'étang, avec cet endroit magique que j'avais connu toute mon enfance comme un domaine de chasse, parce que mon grand-père, à ces générations-là, chassait beaucoup. Et nous, on a plutôt décidé de protéger, hein, de trouver des solutions de protection, surtout en voyant l'envahissement de toute la région de Baden, avec les constructions, etc. Donc on a contacté, à ce moment-là, on a contacté Guillaume. Au début, Guillaume Gélineau, qui est le directeur de la réserve ornithologique de Séné. Et avec lui, on a commencé à monter un dossier. Et puis après, on s'est rapproché de la DDTM. Et l'affaire était lancée. Quoi. Ça prend un petit peu de temps, parce qu'il a fallu demander un arrêté du biotope auprès de la préfecture. Pour se lancer un petit peu dans le projet de la réserve, on a cherché des partenaires. Des partenaires officiels et compétents. Donc, ça, encore une fois, ça a commencé avec Guillaume Gélineau, la réserve ornithologique de Séné. Et puis après, Jérôme pour l'EFB, hein, l'Office national de la biodiversité. et la mairie, parce qu'il y avait un certain nombre de documents, d'autorisations, de permis, etc. Alors, le projet, c'est une fois qu'on a obtenu l'arrêté du biotope, ce qui a été un tout petit peu compliqué, ça prend du temps, quoi. Il y a des papiers, il y a des choses à faire. Il a fallu en même temps voir quelle était la part d'ouverture au public et la part de conservateurs rester quand même un peu chez soi malgré tout. Il y a quand même très très peu de propriétaires qui donnent spontanément leur propriété pour créer une réserve. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne veut pas garder un petit peu quand même de privacité, quoi. Alors on s'est mis d'accord avec la mairie pour créer deux observatoires, plus le troisième naturel qui est la digue ici. Et donc là, c'est la mairie qui s'en est chargée sur le plan financier, je crois qu'elle est pour 15 ou 20 000 euros pour les deux. Et moi, j'ai cédé des parcelles de terre qui permettent d'aller à l'observatoire et que le public puisse observer les animaux. La première fois, c'est tout à fait avant qu'on obtienne l'arrêté, c'était pour lutter contre le baccaris. Donc cette plante invasive que tout le monde connaît maintenant, enfin de plus en plus de gens connaissent. Il y a eu des expéditions, on allait à 30, 40 dans les temps pour arracher le baccaris. C'était un peu compliqué et finalement on a réussi à obtenir une subvention pour l'arrachage des baccaris d'une façon plus, je dirais pas industrielle, mais enfin plus mécanisée. Donc il y a eu deux équipes avec des chevaux qui venait arracher les baccaris, et puis Mouton Glouton, qui est une entreprise régionale, qui a un matériel très important d'arrachage, qui est une sorte de bulle un peu monstrueuse, avec des grosses griffes à l'avant, qui se baladent dans le marais, et qui laboure comme un dinosaure, et qui arrache tout, et derrière lui, alors c'est la terre brûlée, et ça fait quand même pas mal d'effets. Alors ça repousse un petit peu derrière, mais globalement c'était efficace, quoi. Alors pour ça, il a fallu une subvention un petit peu conséquente. Et puis après, on s'est posé la question de savoir comment gérer, à partir du moment où on a eu l'arrêté du biotope, comment gérer au mieux les niveaux d'eau dans l'étang. Et l'ancienne digue, qui est une digue qui date de 1870, avait autrefois deux vannes importantes, dont une avait été bouchée dans les années 1960, et l'autre fonctionnait, mais un petit peu bancale. Et ça, l'idée des partenaires, c'était de dire, si on peut faire monter le niveau d'eau d'une façon régulière dans l'étang, on va lutter contre les baccaris, mais on va également recréer un biotope favorable pour la faune et la flore. Alors comment faire ? Il fallait ouvrir la vanne bouchée, ce qui coûtait quand même pas mal cher, et on s'est battu tous ensemble, on a fait notre boulot, quoi. On a cherché de l'argent, et on a fini par trouver des subventions conséquentes. Le vrai changement spectaculaire, c'était les oiseaux. Quand on est arrivé, encore une fois, cette zone a été chassée pendant des générations, hein, ça a toujours été une propriété pour ça. Du jour au lendemain, plus de chasse. Du jour au lendemain, un endroit calme, avec des niveaux d'eau maîtrisés. Tout d'un coup, une sorte de paix qui s'installe sur la baie. Et là, les oiseaux arrivent par milliers. C'est absolument incroyable depuis quelques années, peut-être 4 ans. Il y en a de plus en plus. Et de ce côté-là, on est aussi bien avec Jérôme qu'avec Guillaume. C'est pour nous, c'est une vraie réussite, quoi.
Alors, vous nous avez parlé de cette évolution, ce changement, tous ces oiseaux qui sont revenus ou venus sur l'étang. Est-ce que vous-même, ça vous a changé un peu votre rapport aux oiseaux ? Est-ce que vous êtes formé à l'observation ? Est-ce que vous reconnaissez la plupart des espèces ?
Alors, je ne dirais pas que je me suis formé d'une façon très scientifique à l'observation. Mais par le contact des partenaires, on apprend énormément de choses. Donc, on achète des bouquins, on s'informe un petit peu. Et c'est vrai que, alors dans ma culture familiale, les chasseurs, c'est quand même des gens très observateurs, qui connaissent très bien les oiseaux, très bien les animaux, qui connaissent les espèces. Donc, par mon grand-père, cette génération-là était très savante. Et ils m'ont appris beaucoup de choses quand j'étais gamin. Mais c'est devenu un peu plus scientifique avec Guillaume et Jérôme, parce que ce n'est pas tout à fait la même approche.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'une espèce que vous appréciez en particulier voir arriver sur l'étang ?
Ah ben oui, c'est les spatules. C'est les spatules, ça c'est l'oiseau mythique pour nous. À tel point que quand on a fait les panneaux d'information sur l'arrêté du biotope, j'ai dessiné le logo avec une belle spatule qui vole. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, il n'y en avait pas beaucoup. Rarement, même pour ne pas dire jamais. Et maintenant, elles sont là tout le temps, quoi. Elles passent. Et c'est amusant parce que je sais aussi que Guillaume a beaucoup observé les spatules et leur migration, particulièrement entre la Hollande et les marais bretons. Et donc, c'est amusant, on se retrouve sur ce sujet-là.
Alors, c'est un site qui est connu par le propriétaire depuis longtemps, mais aussi par les ornithologues, notamment amateurs de la région, qui sont nombreux. Et l'an passé, au moment des fameux comptages Wetland, qui sont les comptages internationaux, il a été dénombré sur l'étang près de 6000 individus d'oiseaux, donc de différentes espèces, et beaucoup, beaucoup de canards. Il y avait 3-4 000 canards sur le site, beaucoup, beaucoup de foulques, qui est une espèce qui ressemble un peu au canard, mais qui plonge pour s'alimenter et qui se nourrit d'herbiers. Et en fait, le fait que le site soit protégé et des niveaux d'eau qui étaient extrêmement favorables à ce moment-là, un petit peu plus bas que les niveaux d'eau classiques en hiver, rendait l'alimentation extrêmement disponible pour les oiseaux, et il y a eu un pic de fréquentation qui a été assez extraordinaire et jusqu'à là complètement inconnu sur le site. Dans les autres espèces qu'on trouve sur le site et qui pour lequel le site a une importance particulière, il y a l'anguille d'Europe, et qui est une espèce qui est en danger critique d'extinction. Il est possible, peut-être même probable, que notre génération voit l'extinction des anguilles. Et ce site-là est important parce que les civelles vont remonter. Les civelles, c'est les bébés anguilles. L'anguille, elle va se reproduire en pleine mer. Et ensuite, les jeunes vont remonter les cours d'eau. Et en fait, avant les travaux, les civelles ne pouvaient pas remonter entre l'étang principal d'eau saumâtre et les cours d'eau plus en amont. Donc, lors des derniers travaux, il a été installé une rampe à civelles qui permet aux civelles de remonter le cours d'eau.
On est toujours avec Jérôme Cabelguen de l'OFB, Office français de la biodiversité. Il dresse un bilan positif des actions qui ont été menées ici depuis 2018 sur l'étang de Toulverne.
On arrive sur quelque chose d'extrêmement intéressant, notamment d'un point de vue partenarial, avec l'initiative d'un propriétaire privé qui veut mieux préserver son espace de vie et aussi l'environnement dans lequel il évolue. L'implication forte d'une association de protection de la nature, l'appui de la collectivité de la commune de Baden, l'appui des services de l'État et l'appui de l'Office français de la biodiversité dans notre rôle de gestionnaire Natura 2000. Et au final, on arrive à un bilan qui est relativement exemplaire, avec une mesure de protection. Là, on parle actuellement des zones de protection forte. On est en plein dedans sur ce qui a été fait sur Toulverne avec l'arrêté de protection de biotope qui vient mettre en place une réglementation, un certain nombre d'interdits, des choses à respecter tant par les promeneurs mais aussi par le propriétaire. Et puis dans la mobilisation des fonds qui sont des fonds européens dédiés à la reconquête de la biodiversité et d'un bon état écologique, on arrive à un bilan qui est très très satisfaisant sur ce site.
Avant de le quitter, j'ai voulu interroger Jérôme Cabelguen sur l'avenir de son métier, de ce territoire et de ces différentes zones à sauvegarder.
Pour le métier, on va dire qu'on est vraiment dans une conjoncture où on a le vent en poupe. Hein. On est dans une conjoncture où on parle énormément de biodiversité. On n'en a jamais autant parlé, même si c'est un terme un peu savant et parfois compliqué. Mais en tout cas, cette notion de besoin de nature, ça, les gens l'ont de plus en plus. La France vient d'approuver la stratégie nationale sur la biodiversité, donc on est dans une période qui est relativement faste, avec peut-être des moyens nouveaux pour l'Office français de la biodiversité qui vont arriver. Pour le site en lui-même et pour peut-être l'ensemble du golfe du Morbihan, ça, on peut ouvrir tous les phénomènes qu'on peut retrouver ailleurs, comme la hausse du niveau de la mer, et le réchauffement climatique et la chute drastique de la biodiversité. C'est des choses qui nous inquiètent aussi au niveau local. On l'a vu dernièrement avec les tempêtes, on l'a vu avec les surcotes de marée. Certaines zones et certains secteurs du Golfe sont fortement sous tension. Les dernières zones qui ont été poldérisées, c'est-à-dire gagnées sur la mer, ont pu être recouvertes par les dernières marées. Donc une vigilance accrue sur ces sites-là et toujours un besoin d'acquisition de connaissances qui nous manque. On connaît beaucoup de choses sur les oiseaux, on connaît un peu moins de choses sur la fréquentation du territoire et on connaît encore un peu moins de choses sur les trajectoires climatiques ou les trajectoires de montée du niveau de la mer sur le site. Donc c'est des choses sur lesquelles on commence à travailler dès maintenant.
Voilà pour ce portrait signé Gaël Ledu de Radio Brogionnette. La réserve nationale de chasse et de faune sauvage du Golfe du Morbihan est gérée par l'Office français de la biodiversité depuis sa création en 2008. L'OFB a en charge la mise en œuvre de protection et de gestion des oiseaux migrateurs et de leurs habitats, la mise en place d'études scientifiques et de partenariats avec les acteurs de la conservation des espèces et la formation des élus et usagers à tous ses objectifs de protection. L'Office français de la biodiversité assure également le respect de la réglementation en place, très stricte dans ce milieu extrêmement sensible. La chasse y est notamment interdite toute l'année et un grand nombre d'îles et d'îlots ne sont pas accessibles au débarquement du printemps à la fin de l'été. Retrouvez toutes nos émissions en diffusion sur les radios associatives de la Corlab en Bretagne, en podcast sur le site corlab.org, rubrique biodiversité en air, et sur radioboa.bzh. À bientôt donc pour un nouvel épisode de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité dans notre région. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.